La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local.
C'est un mélange, la Collective.
Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio Saint-Ferréol. Aujourd'hui, c'est la Collective qui se nomme Psy Mode d'emploi. Cette émission a pour vocation de décrypter un petit peu le monde de la psy pour tous ceux qui se posent des questions ou qui ne s'en posent pas mais qui sont intéressés par le sujet. En tout cas, aujourd'hui, je suis avec Yann qui va co-animer avec moi. Bonjour Yann.
Bonjour.
Et on a trois invités de qualité que je vous présente. Donc je vais vous présenter leur nom et leur fonction. Et puis elles vont continuer de se présenter elles-mêmes. Alors bonjour Léa Buisson, tu es psychopraticienne à Avignon.
Bonjour, tout à fait.
Oui, est-ce que tu veux décrire un petit peu plus ce que tu fais ?
Oui, alors je suis installée à Avignon depuis, ça fera 3 ans. En libéral, je reçois des enfants, des adolescents, des adultes et aussi des couples. Et je pratique une psychothérapie qu'on dit intégrative. On aura peut-être l'occasion de repréciser ce que
oui,
c'est. Ou est-ce que
tout
tu veux
fait.
Que...
Non, pour
ouais,
préciser
on
tout à l'heure
ouais. Ouais.
Ok. On est avec Sophie Ndiaye, qui est donc psychologue. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien décrire un petit peu le champ de tes fonctions ?
Oui, alors je travaille en tant que psychologue salarié, en tant que psychologue de rue. J'accompagne des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans et je suis beaucoup dans la rue. Et l'idée, c'est vraiment de rendre accessible le psychologue à des jeunes qui seraient très, très éloignés. J'ai aussi une fonction en libéral où je pratique le MDR et je suis formée au psychotrauma. Et j'ai également une activité de recherche où je m'intéresse aux facteurs de frein sur l'accès aux droits et aux soins.
Et c'est exactement la raison pour laquelle on a eu beaucoup de chance d'avoir un petit créneau de disponibilité aujourd'hui avec Sophie, c'est qu'elle fait beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Merci donc Sophie d'être là. Hélène Malogouillard, bonjour, tu es aussi psychologue.
Oui, bonjour. Je suis psychologue actuellement, je travaille dans 2 endroits différents. Je suis à la fois dans un CMP pour enfants et ados, des centres médicaux psychologiques, mais on en reparlera plus tard, je crois,
oui.
Plus précisément.
Oui.
Et aussi, je travaille en protection de l'enfance auprès d'enfants placés.
Ok, je te remets à la Fondation Ardouvin qui est donc à Vercheny.
Oui, c'est ça.
Merci. Alors, c'est parti pour le micro-trottoir. Donc à Cray, sur le sujet de la différence entre les termes psy. Est-ce que tu connais la différence entre psychologue, psychopraticien et psychothérapeute ?
Non. Alors,
Tu connais la différence entre psychologue, psychothérapeute, psychopraticien ?
En fait, c'est ce que je me suis dit quand tu as dit psychothérapie. D'un coup, je me suis dit, alors, psychanalyse, psychologue, psychothérapie... Je ne connais pas les différences.
Alors, entre psychologue et psychothérapeute, je dirais oui. Mais psychopraticien, non. Je vois pas la... Je l'associerais plutôt à un psychothérapeute. Pour moi, la différence étant que un psychologue a fait des études en psychologie, là où un psychothérapeute est un thérapeute qui travaille sur l'aspect psychologique de... Sur la psychologie, mais pas forcément avec un diplôme de psychologie. C'est là où je ferais la différence.
Un psychologue, je sais que c'est des personnes qui sont censées avoir un diplôme de psychologue au moins un niveau bac plus 5, donc à l'université, avec une formation reconnue. Psychothérapeute, psychopraticien, je ne fais pas d'énormes différences entre les deux.
Eh bien non, je ne connais pas la différence précise entre ces termes.
Merci. Donc voilà, beaucoup de termes et parfois on s'y perd. On va en écarter un tout de suite, c'est le terme psychiatre. Psychiatre, c'est un médecin. Alors si vous m'arrêtez, dès que je dis une bêtise, hein, surtout. Donc le psychiatre est médecin et donc voilà, on va l'éliminer tout de suite parce que c'est... Qu'est-ce que je peux dire à ce sujet ? Quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet du psychiatre ?
C'est le seul qui peut prescrire des médicaments parce qu'il est médecin. Et puis il y a des psychiatres qui sont juste psychiatres, mais il y a des psychiatres qui sont aussi psychothérapeutes, et donc qui sont pas forcément uniquement sur du renouvellement d'ordonnance, mais qui peuvent aussi quand même faire des psychothérapies.
Ok, ok, je te remercie.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand même, en tout cas en tant que psychologue, on peut être amené à travailler main dans la main avec des psychiatres. Donc quand même, c'est des partenaires de soins dans notre quotidien.
Ok. Par exemple, oui, au CMP, tu vas pouvoir réorienter vers potentiellement un psychiatre en fonction de...
Oui, en fait, au CMP, il y a un psychiatre. Oui. Donc, on travaille avec les médecins en pluridisciplinarité.
Mm. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire du psychologue ?
Eh bien, le psychologue, c'est ce qui a été dit là dans le micro-trottoir est vrai. En effet, c'est une formation qui est encadrée. On fait 5 ans à l'université, donc c'est un master qui nous permet d'obtenir le titre de psychologue. Et après, là, attention, parce que ça peut devenir encore plus confus, parce qu'il y a plein de titres de psychologues différents. Mmh. Par exemple, je suis moi-même psychologue clinicienne.
Mmh. Moi, je suis psychologue sociale de la santé.
Ah, donc Sophie, tu n'es pas clinicienne.
Mais je fais de la clinique, si, si, je suis clinicienne.
Yes. Là, moi, je suis déjà perdue.
En effet, c'est pour ça que c'est confusant.
Parce que souvent, on entend psychologue clinicien, mais j'ai toujours pas compris exactement de quoi on parlait.
La clinique, c'est ce qui permet en tout cas, faire de la thérapie, d'avoir des évaluations cliniques des patients et de les accompagner. Voilà ce que je peux dire. Et donc, ça colore en fait la formation sur une manière de voir, un regard en tout cas particulier. Peut-être que dans d'autres formations, voilà, c'est d'autres regards et d'autres façons d'appréhender les personnes.
En fait, psychoclinicienne, ça recouvre une pluralité de réalités, puisqu'on peut être psychoclinicienne avec des approches psychanalytiques, avec des approches TCC, avec des approches humanistes, avec des approches existentialistes, avec des approches plutôt psychosociales. Et du coup, en fait, psychoclinicienne, c'est une psychologue qui fait de la clinique. Mais après, quels outils ? Ça nous dit rien des outils thérapeutiques que cette personne utilise. Et on y reviendra tout à l'heure.
Et... qu'est-ce qui différencie le psychothérapeute et le psychopraticien ?
Alors, le psychothérapeute a fait aussi un diplôme d'université. Le psychopraticien n'a pas de master à l'université. C'est un titre qui a été défini il y a quelques années maintenant pour vraiment différencier, voilà, que le tronc commun en fait de formation n'est pas le même. Et donc, du coup, ce sont des formations qui ne sont pas diplômantes, mais qui sont uniquement certifiantes. Vraiment, qui peuvent recouvrir différentes approches et en général sur moins d'années.
Ok. Et alors, oui.
Et ce que je voudrais ajouter, c'est que psychothérapeute, c'est pas un métier à lui seul. C'est-à-dire qu'en général, c'est accolé à un autre métier. Donc, on peut être psychologue, psychothérapeute, psychiatre, psychothérapeute, infirmier, psychothérapeute. Voilà. Ça, en général, ça se lit.
Ok, très bien.
Yann. Est-ce qu'on peut clarifier le terme de thérapeute ? Du coup, on a tout de suite sorti donc, le psychiatre qui est médecin, c'est ça ? Donc le toubib qu'on a l'habitude d'appeler. Et en face, il y a des thérapeutes. Est-ce qu'on peut clarifier ce que ça signifie être un thérapeute ?
Ah,
ça c'est une grande question.
Vas-y.
Je pense que chaque personne peut avoir une réponse vraiment personnelle. Pour moi, la thérapie, être thérapeute, c'est être dans le soin de la santé mentale de l'autre et d'accompagner à cet endroit-là. Mais je pense que la façon de faire de la thérapie et la définition de la thérapie peut être différente chez tous les praticiens.
D'accord. Et un psychiatre peut se définir lui-même thérapeute également, où il y a vraiment cette distinction entre ceux qui ont fait concrètement des études de médecine versus le reste du monde, où il y a potentiellement des praticiens en clinique, etc., qui sont thérapeutes, c'est-à-dire qui vont faire des thérapies, de ce que j'en comprends. Donc, est-ce qu'il y a cette distinction entre vraiment les études de médecine d'un côté versus d'autres pratiques du soin autour de la thérapie, ou c'est encore plus complexe que ça ?
Bah, comme on le disait tout à l'heure, en fait, il y a des psychiatres qui font de la thérapie et qui se revendiquent psychothérapeutes. Donc, il n'y a pas de distinction aussi claire qu'il y aurait les psychiatres d'un côté et les psychothérapeutes de l'autre.
Ok. Et donc, un autre élément que tu mentionnais, Sophie, tu t'es présentée comme psychologue salarié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des psychologues qui sont non salariés, qui sont à leur compte. Est-ce qu'on peut en dire un mot ?
Oui, alors il y a des psychologues qui sont salariés, donc qui travaillent dans des structures, donc par exemple au CMP, à la protection de l'enfance, dans des maisons d'enfants, voilà, il y a plein de possibilités. Et puis il y a les psychologues libéraux qui, eux, du coup, travaillent à leur compte.
Et justement, tout à l'heure, tu as abordé le fait qu'on pouvait être psychologue avec une approche psychanalytique. On a aussi le terme psychanalyste. Qu'est-ce que ça veut dire être psychanalyste et dans quel, est-ce qu'il entre dans une des catégories ?
Vraiment, le terme psychanalyste, ce qu'on appelle psychanalyste, c'est quelqu'un qui a suivi tout un cursus en psychanalyse, qui ne sont pas des formations qui sont reconnues, en tout cas diplômantes par l'État. Et c'est tout un processus, du coup, avec une analyse personnelle, etc. Donc, c'est quelque chose qui est en parallèle, là aussi, de diplômes diplômes reconnus, quoi.
Ouais.
Donc, on peut, là aussi, pour continuer de complexifier la chose, être psychologue, psychanalyste, ou bien psychiatre, psychanalyste.
Oui, oui, oui.
Voilà ce que je peux en dire.
Et contrairement, du coup, aux autres termes, psychanalyste, finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment la seule appellation qui définit l'approche que va avoir le praticien. C'est-à-dire, du coup, c'est l'approche de la psychanalyse. Mmh. Alors que ce qu'on a vu là, c'est que psychologue, psychothérapeute, c'est un titre, mais en fait, ça ne dit pas exactement quels outils vont être utilisés, oui, et comment on va travailler. Le psychanalyste, il fait de la psychanalyse.
Ok, je vous remercie. Moi, ce que j'aimerais poser maintenant comme question, c'est qu'est-ce que nous dit le titre du thérapeute sur sa compétence en tant que thérapeute ?
Qu'est-ce que tu veux dire par compétence ?
Il peut y avoir, j'ai l'impression, un questionnement parfois pour certaines personnes, de la personne qui a fait des études ou par rapport à celle qui a fait moins d'études. Est-ce que, qu'est-ce que ça nous dit réellement de sa compétence en tant que soignant ?
En effet, à partir du moment où, quand on est thérapeute, sans plus de précision, la formation qu'on a pour se qualifier soi-même de thérapeute, elle est très variable, quoi. Donc, d'une personne à une autre, on n'a pas l'assurance que la formation ait été suffisamment qualifiante pour permettre à la personne d'accompagner des gens en souffrance. Après, il y a aussi dans quelle situation, en tant que patient, on est ou en tant que client, puisque c'est parfois on les appelle les clients,
oui,
pour certains thérapeutes. Est-ce qu'on est dans une situation où il y a une vraie pathologie avec une souffrance qui nécessite vraiment un soignant qui soit formé, qualifié à cette pathologie ? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui a des questionnements sur son mode de fonctionnement, mais on n'est pas au sein de la pathologie ? Donc là, peut-être, il y a plus d'options aussi ouvertes. Enfin, c'est vraiment pas une question qui est simple à trancher.
Ouais, ok.
Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que quand on va voir un psychologue, on sait que c'est quelqu'un qui a fait 5 ans d'études, que c'est reconnu, encadré, puisqu'on a un numéro RPPS. Donc, il y a un encadrement légal de la formation de psychologue où il faut avoir une licence, un master et un stage qualifiant. Voilà.
Oui.
Et après, pour le reste, effectivement, il y a une pluralité où quand on va avoir des personnes qui ne sont pas passées par la fac, c'est bien de se renseigner sur les formations pour savoir si effectivement la formation est suffisante et si ça correspond aux attentes.
Très bien. J'avoue que moi, sur ce sujet, j'ai un petit biais qui est que j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de ce qui va se vivre dans un cabinet quand on va consulter quelqu'un qui se joue sur la relation et de la personne en elle-même. Et par exemple, un psychologue qui sortirait de la fac à 23 ans, je ne sais pas, moi en tout cas, ça m'inspire beaucoup moins confiance que une psychopraticienne qui a, je ne sais pas, 10 ans d'expérience, qui a vraiment recherché la formation spécifique, précise sur un sujet qui la passionnait pour pouvoir être au mieux qualifiée sur certains domaines. Voilà, donc ça c'était mon avis sur la question.
Oui, je pense que effectivement les formations sont différentes et on est plus certain que évidemment que le psychologue donc a fait ses cinq ans d'études, mais je pense qu'il y a quelque chose à voir aussi, c'est il y a d'une part la formation, c'est vrai, c'est d'où on vient, qu'est-ce qu'on a appris, ça c'est important, mais c'est pas, moi j'ai l'impression que c'est pas que avec ça qu'on accompagne les gens, c'est-à-dire que après il y a vraiment tout le côté de la posture qu'on a en tant que thérapeute, de comment on crée un lien, de en fait comment on accompagne des gens, et c'est vrai que moi à la sortie de mes études, je savais pas vraiment comment accompagner des gens. Et je sais pas si j'avais discuté aussi avec des amis psychologues qui me disaient qu'elles aussi, au bout de 5 ans, elles se sentaient pas non plus très à l'aise à accompagner quelqu'un. C'est-à-dire qu'après, il y a vraiment quelque chose qui ne relève pas que de la formation en tant que telle, mais qui se développe à un niveau aussi d'un savoir-être et de l'expérience, quoi. Ouais.
Et puis la formation, c'est pas une fois on l'a faite et puis après c'est terminé. C'est aussi des métiers où on se forme tout au long de la carrière, en tout cas de l'activité. Mmh. Donc comment ces personnes se forment ? Est-ce qu'elles travaillent seules ou elles travaillent en partenariat ? Enfin, il y a aussi d'autres faisceaux d'indices qui nous permettent de faire confiance en fait à la personne qu'on va consulter.
Ouais. Mmh. Ok.
Donc dans tout ça, j'imagine que la personne qui veut démarrer un travail ou une thérapie, ça peut être assez confusant. Est-ce que finalement, les personnes qui viennent vous voir, souvent, ils arrivent quand même ils frappent à la bonne porte, ou est-ce qu'il vous arrive de réorienter parce que c'est potentiellement plutôt de l'ordre du psychiatre ou d'autres thérapies ? Est-ce que ça vous arrive ?
Là, c'est peut-être plus pour Léa et Sophie qui sont en cabinet.
En fait, je réoriente le psychiatre, par exemple, quand je sens que j'ai des patients qui ont besoin d'un suivi psychiatrique, je vais leur dire et je vais les inciter en fait à aller prendre rendez-vous et même les aider. Mais c'est vraiment, je sais que c'est un travail différent qu'on va faire, donc c'est pas je réoriente et je laisse la personne.
C'est-à-dire que ça va être en complément.
Ça va être en complément parce que parfois il y a besoin aussi d'un traitement. Et c'est vraiment intéressant, quand il y a une prise de traitement, qu'il y ait quand même un travail psychothérapeutique qui soit fait en même temps. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des psychiatres aussi avec qui on peut travailler. Voilà ce que je pouvais dire sur...
Et Hélène, oui.
Et ce qu'on voit, par exemple, au CMP, quand on reçoit des situations, des nouvelles demandes, en effet, il y a certains... c'est le service public, donc de toute façon, tout le monde a sa place ici. Après, il y a la réalité, il y a beaucoup de monde qui souhaite accéder à ça. Donc, il y a des délais d'attente avant une prise en charge qui sont assez longs. Donc, il peut arriver qu'on mette les personnes sur liste d'attente en les prévenant qu'il y aura quand même un long délai. Donc, en attendant, s'ils ont la possibilité, ils peuvent faire appel à des ressources en libéral. Et dans ces cas-là, on ne le fait pas non plus pour chaque situation. Il y a des situations où quand même on se dit que ça relève vraiment d'une équipe pluridisciplinaire. Donc en libéral, un psychologue ou voilà, tout seul, ça risque dans certaines situations d'être difficile parce qu'il faut quand même une prise en charge plurielle et des regards du coup pluriels aussi sur la situation.
Ça, c'est aussi, ça dépend aussi parfois des thématiques. Par exemple, sur les thématiques de l'addiction, moi, je trouve qu'il y a vraiment souvent besoin d'une pluridisciplinarité. Il y a besoin d'un addictologue, il y a parfois besoin d'un psychiatre, il y a parfois aussi besoin d'un groupe de parole. Et en fait, c'est vraiment notamment vraiment sur cette thématique-là où un thérapeute seul, que ce soit psychologue ou psychopraticien, c'est probablement pas suffisant pour la personne.
Ok.
On va faire une petite pause musicale et on reviendra sur les différentes approches. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. And open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. Seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Help me if you can.
the show. Now that I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me.
Bon, je fais un rapide résumé de la situation. On va avoir peut-être trois catégories. On aura le psychiatre qui est plutôt du domaine du médical. On a le psychologue qui a vraiment fait des études à l'université. Et on a le psychopraticien qui s'est formé ailleurs qu'à l'université. Et après, on a toutes les approches possibles qu'on peut mettre dans ces trois contenants. Est-ce qu'on peut résumer un peu comme ça ? Personne n'est choqué autour de cette table. Donc on va poursuivre sur les différentes approches. Alors là, on en a vraiment mais des dizaines, voire des centaines, je ne sais pas combien on en a, mais on va essayer de décrypter un petit peu, parce que quand on cherche un professionnel, on va tomber sur des termes qu'on ne sait pas forcément identifier. Il y en a un, allez, je le lance là en tout premier, le thérapeute en gestalt-thérapie. Est-ce que quelqu'un veut m'expliquer ce que c'est ? Personne ? Personne sur la gestalt-thérapie ? Apparemment, il s'agirait de la thérapie de l'ici et maintenant. On se reconnecte à ce qui se passe dans le présent. Mais je vois qu'on ne va pas beaucoup plus développer, alors je vais lancer un autre terme. TCC ? TCC, ça parle à quelqu'un ? Qui ?
Alors, les TCC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Il faut savoir que au départ, les TCC, c'est né dans les labos de psychologie. Donc, ça avait vraiment une revendication d'être très scientifique, d'utiliser des protocoles pour chaque symptôme. Il y avait un protocole à suivre. Et puis, petit à petit, Beck, qui est un peu le maître des TCC, en fait, a remis au devant de la scène la question de la relation et des cognitions. Et du coup, ce que je pourrais dire, c'est que les TCC, ça va être une thérapie qui est où il y a quand même assez, il y a de la guidance avec des objectifs thérapeutiques définis. Et du coup, moi, j'aime bien dire, quand quelqu'un me demande est-ce que tu me conseillerais de faire de la TCC, si on sent qu'on a besoin de repères, si on a besoin d'objectifs clairs thérapeutiques, si on a besoin d'avoir une visibilité sur le processus, ça peut être intéressant de s'orienter vers les TCC.
Ok, je te remercie, Sophie. Alors, je lance un autre terme, le MDR. À quoi sert le MDR ? Léa ?
Le MDR, alors EMDR, c'est, avec mon magnifique accent anglais, c'est donc Eyes Movement Desensitization Rotation. C'est une technique de désensibilisation du trauma, qui vient exercer de façon mécanique ce que notre cerveau fait pendant la nuit, à savoir le traitement des souvenirs de la journée avec un balayage oculaire pendant qu'on dort. On ne se rend pas compte, mais on vient en fait aller droite-gauche pour activer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche pour venir en fait ranger les souvenirs de la journée au bon endroit. Et en fait, quand il y a une expérience qui fait traumatisme, elle n'a pas été, c'est une expérience qui reste là, qui est figée et qui n'a pas été rangée et qui continue d'être active et d'avoir une influence, un impact sur notre vie. Et donc, avec le MDR, on vient un peu mécaniquement recréer, recontacter ce trauma pour tenter de le ranger au bon endroit et donc de le désensibiliser.
Ok.
Peut-être juste, moi, je pourrais rajouter ce que je pense aux auditeurs, aux auditoristes qui se disent quand est-ce que je pourrais aller voir un thérapeute EMDR ? Si, par exemple, on a vécu ce qu'on appelle un trauma simple, ça veut dire un accident ou un événement vie qui est difficile, qui est ciblé, où il y a eu un avant et un après, là, c'est particulièrement recommandé de faire de l'EMDR parce que c'est vraiment la situation idéale. Et après, si on sent qu'on est pris et qu'on a besoin d'avoir un peu de désensibiliser des choses qui viennent nous perturber dans le présent avec des choses qu'on arrive à associer avec des événements de vie, pareil, on peut aller s'orienter vers de l'EMDR. Et après, c'est aussi une thérapie plus complexe. On peut y aller même sans symptômes prédéfinis. Mais c'est, voilà. Si vraiment il y a des traumas, c'est quand même extrêmement préconisé.
Oui,
Oui, justement, bon, là, je vais un peu parler de l'émission qu'on a enregistrée hier avec Pauline Billet, hypnothérapeute, où on a écouté un audio de Muriel Salmona qui expliquait que, justement, pour accompagner le trauma, parfois le MDR a ses limites dans le sens où ça peut être juste une pratique dissociante et que l'idée de, pour le trauma en l'occurrence, on va vouloir l'intégrer. L'intégrer. Et donc voilà, attention à ce que le MDR ne soit pas simplement une pratique dissociante.
Alors peut-être je peux en dire quelque chose. Sur le MDR, en fait, il y a plusieurs formations aussi qui existent et il y a plusieurs manières de le pratiquer. Et malheureusement, il y a des pratiques de l'EMDR qui sont problématiques et qui effectivement n'amènent pas suffisamment de sécurité, ne respectent pas la temporalité du patient. Et du coup, ça amène de la dissociation et ça peut être extrêmement troublant, voire même des fois, c'est même contre-indiqué hein, si le MDR n'est pas bien utilisé. Et du coup, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une des préconisations qui est importante, c'est de se sentir en sécurité déjà avec le soignant ou la soignante et que ce soit dans un espace qui soit clair, où le processus est clair, où on comprend ce qu'on fait. Et ça me paraît extrêmement important.
Merci. On continue. Donc là, on était vraiment plus sur une technique qu'une approche. Qu'est-ce qu'on peut dire des thérapies familiales systémiques ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur le sujet ? Oui, Hélène.
La systémie, c'est comprendre en tout cas un individu, non pas comme une entité justement simple, mais comme quelqu'un qui est pris dans un système, qu'il soit familial, qu'il soit social, quelle que soit l'échelle qu'on veut y donner. Mais souvent, c'est familial, c'est pour ça qu'on parle généralement de thérapie familiale et systémique. L'idée étant que parfois, on peut considérer que les manifestations que présente le patient sont peut-être une émanation d'un environnement qui porterait à manifester ce mal-être de cette façon pour cette personne, mais que si on regarde uniquement l'individu sans regarder l'environnement dans lequel il est, on passe à côté finalement de la source de pas mal de la souffrance de cette personne-là. Donc c'est en général les thérapeutes systémiques, ils reçoivent non pas une, mais 2, 3, 4, 5 personnes, le nombre de personnes qui font partie du système choisi. Et là aussi, il y a différentes écoles de systémie et donc il y a différents protocoles et différentes façons de mener ces thérapies systémiques.
Merci.
Et par exemple, ça peut être préconisé quand il y a des dysfonctionnements au niveau de la famille, quand on sent qu'il y a des symptômes qui viennent s'inscrire dans un système donné. Donc ça peut être famille, couple ou plus largement même amis. Il y a des thérapeutes qui par exemple, peuvent recevoir même hors famille de deux personnes.
Mmh. Ok. Est-ce qu'il y a des approches qui vous semblent importantes de nommer ?
C'est vrai qu'il y en a, quand même énormément, et puis il y en a qui s'inventent régulièrement. Donc de toute façon, il faut aussi que la personne qu'on rencontre, elle puisse expliquer un peu comment elle travaille et voir si ça nous correspond ou pas. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir un regard complet sur l'ensemble des approches possibles.
Je crois qu'il y en a plus de 400.
Ah. Très bien. On ira donc consulter cette liste.
Alors, et peut-être juste dire quelque chose. En fait, là, on parle des approches, ça permet d'avoir des repères, mais il faut savoir qu'après, chaque psychologue, thérapeute va en fait aller piocher généralement dans différentes approches pour s'ajuster en fait à la problématique du patient ou de la patiente. Du coup, on peut aller rencontrer quelqu'un avec une représentation de son approche et puis en fait, la personne, elle va travailler aussi avec ce qui est là et ce qui arrive dans la relation.
Très bien, je te remercie pour cette précision. On va continuer avec l'interview de Marco qui nous parle un peu de méthodologie.
Tu as vu plusieurs psychologues
psychothérapeute 2, psychiatre 1. Voilà.
Comment tu as choisi les personnes que tu consultais ?
Principalement au niveau de la méthode. Pour la dernière, elle fait des TCC. C'est quelque chose qui, moi, me parlait par rapport à mes problématiques. Après, il y a une histoire de feeling aussi, mais je ne sais pas si... je pense que la personne est importante, mais je pense que la manière dont on s'approprie sa thérapie est quelque part plus importante que l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Donc je ne sais pas si le choix du ou de la thérapeute est si primordial que ça pour moi.
Tu mettrais la méthode avant la personne ?
Non, je pense que la méthode, c'est un prérequis. Mais en gros, je préfère aller voir une personne qui applique une méthode à laquelle j'accorde de la valeur plutôt qu'une personne avec qui le feeling passe, mais où j'ai des doutes sur sa méthode.
Et comment tu as choisi les méthodes, justement ? Tu parlais de TCC. Tu t'es renseigné ?
Oui, je me suis renseigné en discutant autour de moi avec des personnes qui peuvent faire des études dans le domaine, sur Internet.
Moi, ça m'apporte la question sur le lien entre le thérapeute. Alors, que dire du lien qui se tisse avec le thérapeute et en quoi il est important, ce lien ? Ou pas ? Il paraît qu'il y a une étude récente sur l'efficacité de la thérapie par rapport à ce lien qui se construit. Est-ce que vous avez entendu parler de cette étude ?
Oui, j'ai entendu parler de cette étude et je l'ai parcourue. En substance, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils cherchaient vraiment à établir comment on définissait un thérapeute efficace. Et ce qui était ressorti, c'est qu'il ne s'agissait pas tant des méthodes utilisées, et donc un peu tout ce qu'on vient d'expliquer là, mais qu'en premier lieu, il s'agissait vraiment de la relation que le thérapeute allait pouvoir construire avec son patient, de la qualité du lien et à cet endroit-là, de l'alliance thérapeutique qui se met en place, qui permet justement de se sentir suffisamment sécurisé pour pouvoir ouvrir des espaces traumatiques et pouvoir travailler. Et donc l'endroit du lien, ce qui est raconté aussi dans cette étude, c'est que c'était beaucoup ce qui était apprécié, c'était la capacité du thérapeute à se remettre en cause, à venir aussi pouvoir dire que parfois il se trompait, enfin pouvoir sortir de cette position un peu haute, enfin que c'était ça qui donnait aussi confiance aux gens.
Et cette recherche, alors je sais pas de quelle recherche tu parles, mais en fait Carl Rogers nous disait déjà ça. Donc il y a, je pense, dans les années 70, il me semble, à vérifier. Mais en tout cas, ça fait quand même plusieurs décennies. Il nous disait déjà que ceux qui soignent avant les théories, c'est la relation. Et d'ailleurs, lui, donc il est d'orientation humaniste, il disait qu'il fallait prêter une attention particulière à l'alliance thérapeutique. Et effectivement, c'est fondamental. En fait, ce qui soigne, c'est pas les théories. Ce qui soigne, c'est pas le diagnostic. Ce qui soigne, c'est un tout qui se passe dans une rencontre. Donc avant tout, comme nous dit dans le micro-trottoir cette personne, j'ai rencontré quelqu'un, et effectivement, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que je me sens en sécurité, est-ce que je me sens écoutée, est-ce que je me sens jugée, est-ce que j'ai le droit d'exister dans toutes mes facettes. Parfois, il y en a qui disent, bah ça, je sens que je peux en parler avec mon psy, mais ça, j'ai l'impression que je me sens pas trop comprise là-dessus. Donc voilà, c'est en fait avoir un espace où on va avoir le plus de liberté possible pour être soi et pour aller explorer des facettes de soi qui sont parfois plus compliquées à aller convoquer.
Et je trouve que dans aussi une des méthodes thérapeutiques, c'est en fait au sein même de l'entretien clinique, c'est pouvoir porter un regard sur ce lien qui est en train de se tisser dans cette rencontre et qu'est-ce que ça fait vivre à l'un, à l'autre, qu'est-ce que ça renvoie. Et en fait, on a parlé beaucoup de méthodes, etc., mais on n'a pas vraiment parlé aussi de cliniques. Il y a quand même des cliniques différentes. Sophie, tu commençais quand même à aborder un petit peu le sujet tout à l'heure, mais en fonction de la clinique qu'on a, on va utiliser plutôt telle ou telle méthode. Et c'est sûr que dans certaines cliniques qui sont plus de l'ordre du travail relationnel, ce lien thérapeutique, c'est le centre de tout, quoi.
Et notamment au regard des théories de l'attachement, où en fait, dans l'attachement, on va justement s'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans le lien. Et du coup, moi, je sais par exemple que c'est très important que les patients-patientes me fassent un retour sur comment ils se sentent. Est-ce que ils avaient envie de venir aujourd'hui? Est-ce que il y a des moments où quand je sens que c'est moins fluide d'aller questionner ça et de pouvoir dire des choses qui d'habitude ne sont pas dites dans les relations. On va pas dire à nos amis, j'avais pas du tout envie de venir, juste avant je me suis forcée mais j'avais pas envie de te voir. On va pas dire ça à des amis, mais ça c'est des choses qui pour moi sont importantes de pouvoir dire au psy, parce que ça nous donne du matériel clinique.
Ok, je te remercie. Moi, ça me donne envie de tout de suite aller sur le sujet de des points de vigilance. Même si, donc là, on parlait un petit peu de la mise en sécurité de la relation avec le psy. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut dire d'un patient qui... comment je pourrais formuler ça ? Si la relation devient compliquée, comment fait le patient pour se sortir de là, par exemple.
Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par relation compliquée ? Parce que parfois, c'est peut-être que on est dans le travail, en fait. Donc, le fait de pouvoir formuler ça à son psychologue, psychopraticien, thérapeute, quel qu'il soit, ça veut dire, en effet, en prérequis, de se sentir suffisamment sécurisé, pouvoir aborder le sujet. Vraiment, là, aujourd'hui, suite à ce que vous m'avez dit la dernière fois, j'étais pas bien, donc je vous le ramène. Est-ce qu'on peut en parler du fait que j'étais pas bien la dernière fois de ce que vous m'avez dit ? Ah, bah oui, ça va permettre d'en parler. Pourquoi vous étiez pas bien ? Qu'est-ce que ça concerne ? À quoi ça vous fait penser? Et là, on va être dans le travail. Si on n'est juste pas bien, qu'on n'arrive pas à le ramener, en fait, en effet, ça ne sert pas de matériel clinique et donc on ne peut pas avancer. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que la personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa formation, son bagage qui accompagne le patient, elle ne peut... Bien que, évidemment, il y a ce qui passe par le verbal, ce qui est dit dans la communication verbale, ce qu'on peut observer dans la communication non verbale, qui fait absolument partie du tableau et de l'évaluation clinique qu'on peut avoir. Mine de rien, il y a des choses qu'on ne peut pas deviner, qu'on ne peut pas comprendre tant que ce n'est pas formulé par la personne. Et donc, on peut essayer de faire ce travail pour, ensemble, que cette formulation soit possible. Mais si le patient retient trop de choses, c'est qu'en effet, la relation n'est pas établi et d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas avancer.
Et quels indicateurs pourrait avoir le patient pour se dire « Ok, là, c'est peut-être, il faut peut-être que j'arrête avec ce thérapeute. » Je suis sur autre chose.
Ouais, si, si. Peut-être pour ça amène dans la continuité. En fait, c'est est-ce que effectivement il y a un travail thérapeutique qui a été plutôt dans le respect, qui se passe bien, et puis qu'à un moment il y a quelque chose qui vient être compliqué et d'avoir la possibilité de le ramener, ça me semble important. Si par contre on est dans une relation thérapeutique où on se sent pas en sécurité, où on se sent jugé, où on sent peut-être qu'il y a des choses qui sont dites qui viennent faire violence. Dans ce cas-là, c'est quand même des indicateurs qui pourraient penser que peut-être ce serait important de pouvoir changer.
Et ouais. Est-ce que ça peut être entendu aussi par le thérapeute si on arrive à le formuler ? En fait, je crois que je vais arrêter de venir. Est-ce que le thérapeute respecte ce choix-là ou pas, est capable de l'entendre ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est aussi, encore une fois, se sentir entendu, reconnu dans ce qu'on amène.
Merci. On va faire une petite pause musicale et on reviendra sur ces sujets.
Every moment gone, you know I miss you. I'm the question, and you're of course the answer. Just hold me close, boy, 'cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling out for help. Ask me, someone help me. It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making this hard. I can't.
On va tout de suite écouter la deuxième partie de l'entretien avec Marco sur la première séance avec un thérapeute. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui n'a jamais fait de thérapie et qui va chercher à trouver un thérapeute ?
Les conseils que je pourrais donner, déjà, ce serait de se renseigner un peu sur les différents types de thérapie pour voir instinctivement ce qui nous parle. Et l'autre conseil que je donne, que je trouve pas mal, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la personne, il y a toujours un moment où on doute pour prendre rendez-vous, c'est toujours un peu compliqué. Alors moi, j'aime bien envoyer un texto, parce que ça demande assez peu d'efforts par rapport à passer un coup de fil où on ne sait jamais si c'est le bon moment ou pas. Voilà, un texto succinct en expliquant nos problématiques et en demandant à être appelé, ça permet d'acter quelque chose et de ne pas se réfugier un peu derrière ce premier pas qui peut être compliqué à effectuer à certains moments.
Et si on parle de la toute première séance, est-ce que tu aurais des choses à dire sur, sur le sens et l'importance qu'elle a ?
Pour moi, la toute première séance, elle est rarement représentative dans le sens où, en tout cas personnellement, ce qui m'est arrivé, c'est que c'est des séances où j'ai beaucoup parlé, on aborde énormément de sujets en parallèle. Et c'est pas là où on commence réellement le travail, donc je pense que c'est plutôt au regard des deux, trois premières séances qu'il faut évaluer sa thérapie et la première n'est pas nécessairement représentative.
Ok, et elle t'aide pas à toi à te dire ok, j'ai fait le bon choix ou finalement je vais trouver un autre thérapeute?
Peut y avoir des red flags, clairement, qui font dire que la personne qu'on a en face de nous n'est pas la bonne, mais après, c'est une histoire de ressenti. Je pense vraiment qu'une séance d'une heure ou une heure et demie avec une personne, c'est pas suffisant pour réellement voir ce que la personne peut nous apporter.
Il y a une fin à la psychothérapie ?
Sûrement, il peut y avoir des pauses. Je pense qu'il y a une fin. Oui, si on consulte pour un sujet très spécifique, à partir du moment où la problématique est résolue, il n'y a pas de raison que la thérapie continue. Mais en même temps, une problématique en révèle souvent une autre et on arrive un peu toujours à trouver des nouvelles choses à travailler. Mais c'est ce qui fait que c'est passionnant aussi.
Cette émission, elle a notamment la vocation d'aider ceux qui se posent des questions, qui n'ont jamais fait le pas, d'avoir deux, trois pistes. C'est pour ça que je trouve ça intéressant ce qu'il nous dit dans l'audio. Est-ce que vous avez des choses à commenter par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant et de lui ce qui vient pointer du doigt?
Et peut-être où trouver justement ces premiers conseils, ou est-ce qu'on peut, comment on peut se renseigner? Est-ce qu'on doit faire appel à aux professionnels de santé? Est-ce qu'on peut aller fouiller sur Internet? Est-ce qu'il vaut mieux faire confiance à nos amis qui sont déjà en thérapie, ou est-ce qu'on peut trouver ces premiers indices qui vont nous dire si c'est la bonne personne pour nous?
Ben oui, c'est un peu tout ça. On peut demander à des amis, souvent quand même les professionnels ont des sites internet avec des avis. C'est important aussi d'aller voir ça et de vraiment essayer de sentir est-ce qu'il y a quelque chose là dans ce que je lis, de ce que la personne écrit sur elle, sur sa pratique. Est-ce que ça me touche? Est-ce que ça me donne envie d'y aller? Il y a un endroit où sentir qu'il y a un petit élan, quelque chose qui vient dire oui à l'intérieur, pour tenter. Et après, c'est vrai que ça, c'est un peu comme des petits éléments d'une pré-rencontre, mais qui pourront vraiment se concrétiser qu'au moment où on voit la personne.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est pas forcément la première séance, c'est plutôt au bout de deux ou trois séances, ou est-ce que selon vous, à la première séance, on peut déjà avoir un avis qui est, ou en tout cas un red flag, comme il dit, sur le fait que bon, bah là, je me suis pas senti 100% sécurisé?
Ben, je pense que, en fait, en tout cas, moi, même dans la première séance, je mets vraiment déjà le lien au centre de la première séance, c'est-à-dire de m'assurer que ce qui s'est passé pendant cette première séance était conforme un peu aux attentes de la personne. Je vous donne un exemple. Par exemple, en première séance, les gens, parfois, ils sont quand même un peu stressés, c'est pas facile de prendre rendez-vous. Et il y en a qui peuvent se mettre à parler. Une heure, ça passe vite. Et J'ai souvent des gens qui vont me dire « Oui, j'ai déjà fait de la thérapie, en fait, je faisais que parler, on ne me répondait pas en face. » Donc, par exemple, quand je sens que quelqu'un part sur cette voie-là avec une espèce de logorée là, qui ne va pas s'arrêter, je me permets d'interrompre et de dire « Est-ce que c'est ça dont vous avez besoin là » C'est-à-dire de vraiment déverser. Est-ce que je peux vous interrompre? Est-ce que vous avez envie que je vous donne mon avis? Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire tout de suite de m'intéresser en fait à venir pointer. Est-ce que là, ce qui se passe dans l'enceinte de l'entretien, est-ce que c'est ce qui est attendu par la personne? Est-ce que c'est ça qu'elle veut? Et ça, pour moi, c'est déjà un espèce d'élément de création du lien. C'est-à-dire qu'en fait, je suis intéressée et préoccupée par les besoins de la personne à ce moment-là, quoi.
J'aimerais bien qu'on continue sur les aspects concrets pour quelqu'un qui a envie de faire le pas. Alors, est-ce qu'on peut tout de suite parler des prises en charge possibles? Tout le monde n'a pas les moyens, d'ailleurs, d'aller voir un thérapeute. Qu'est-ce qu'on peut faire quand potentiellement on n'a pas les moyens?
Alors déjà, ce qui existait, le service public. Donc je disais, je travaillais en CMP enfant-ado. Donc le CMP, centre médico-psychologique, c'est donc l'ambulatoire de l'hôpital psychiatrique. Donc c'est du soin gratuit, accessible à tous. Et comme je disais un peu plus tôt, par contre, c'est assez chargé en ce moment, les CMP. Donc, moi, je travaille pour les CMP enfants-ados, mais il y a aussi les CMP adultes qui prennent en charge des patients à partir de 18 ans. C'est assez chargé. Donc, on est légitime à tout moment de se présenter à un CMP. Après, dans quelle mesure on va pouvoir être pris en charge rapidement, c'est moins donné.
Et qu'est-ce qui se passe concrètement une fois qu'on est pris en charge? C'est quoi le concret d'après?
En fait, quand on demande une prise en charge au CMP, on contacte généralement par téléphone la structure. Là, il y a un rendez-vous qui est donné pour un premier accueil. On est reçu, ça dépend des CMP, mais en tout cas, ici, on est reçu par une infirmière ou un infirmier. Ça permet d'avoir une présentation justement de la structure, où on met les pieds, et ensuite de détailler un peu plus la demande qui fait qu'on est là aujourd'hui en face de ce professionnel. Ensuite, en équipe, une orientation est donnée pour cette situation-là, donc ce patient-là. Est-ce qu'il doit être suivi par un psychologue, un suivi infirmier, une psychomotricienne? Est-ce qu'il y a un besoin aussi d'assistante sociale, par exemple? Il y a différentes options possibles. Et en ayant entendu, bien sûr, la personne, hein, c'est pas sans l'avis de la personne. Et suite à cette orientation qui est faite par l'équipe, la prise en charge pourra commencer, mais le patient, la patiente est mise sur liste d'attente. Donc ça peut mettre vraiment plusieurs mois, 3, 6, 9 mois.
Il y a parfois des caractères d'urgence
Oui, il y a parfois des caractères d'urgence, ça c'est sûr. Après, les CMP, c'est pas des lieux d'urgence. Donc si vraiment on est dans une urgence sanitaire avec une inquiétude pour la vie de la personne, il faut aller aux urgences pédiatriques ou aux urgences générales. Et là, il y a des professionnels qui peuvent entendre, voire évaluer immédiatement, en effet, la sévérité de l'état de la personne. Donc le CMP, c'est pour des suivis, c'est pas pour de l'urgence. Oui. Il y a aussi, quand même, c'est une ressource qui est importante à citer aujourd'hui, je pense, en cas de besoin pour des problématiques suicidaires, il y a un numéro qui existe, le 3114, 24 heures sur 24. C'est des professionnels formés qui peuvent répondre à soit des personnes qui ont des idées suicidaires pour eux-mêmes ou des proches de personnes suicidaires. Donc, c'est quand même une ressource vraiment précieuse. Voilà.
Donc, on redit peut-être le numéro, c'est le 3114, c'est ça?
Oui, 3114, 3114.
J'ai entendu aussi parler d'un dispositif, qui s'appelle Mon Soutien Psy. Est-ce que quelqu'un peut un peu décrire comment ça fonctionne? Ou le sait? Personne ne sait.
C'est un dispositif qui a été mis en place par l'État. Il y a eu différentes phases. Donc au début, c'était quand même des critères très spécifiques. Il y avait vraiment très peu de professionnels qui étaient engagés dans cette procédure-là. Bon, il y a eu une modification depuis. Donc il y a plus de professionnels qui sont habilités maintenant. Donc Moussintiam, si c'est des psychologues formés et donc qui vont pouvoir accueillir des patients sur certains critères quand même encore, mais en ayant les patients bénéficieraient d'un remboursement de la sécurité sociale à hauteur de 12 séances renouvelables une fois. Donc ça fait quand même 24 séances possibles de thérapie. Et donc il faut regarder sur Internet, il y a un annuaire des psychologues qui sont habilités à être pris en charge par la sécurité sociale. Là aussi, bon, parfois, selon les territoires, il peut y avoir un peu d'attente. C'est ça quand même la problématique. Hein, partout, c'est assez saturé.
Ok. Sophie, tu peux nous parler un peu de ce qui existe pour les jeunes ?
Oui. Pour les jeunes, donc il y a le CMP, ce qu'on a dit, le CMP enfant. Et après, sinon, il y a le point accueil écoute jeune à Valence qui accueille gratuitement. Il y a le point relais oxygène aussi, qui est un lieu d'écoute pour les 16-25 ans, où ils peuvent aussi rencontrer des psychologues de manière gratuite. Et c'est aussi des ressources pour les parents qui seraient en difficulté. Il y a la MDA, donc là, tout ce que je dis, c'est à Valence. Donc, faut faire un peu de route. Mais la MDA, c'est pour les 13-20 ans. Et là, il y a vraiment la possibilité également de rencontrer des psychologues de manière gratuite.
Voilà. Maison des ados ?
La maison des ados,
oui,
c'est ça. Et après, moi où je travaille, donc c'est au sein de la prévention spécialisée. Donc, si par exemple il y a des jeunes qui sont très éloignés à l'idée d'aller voir un psychologue, où il y a beaucoup de freins parce que aller parler à un psy ça fait peur, parce qu'être enfermé dans un bureau ça fait peur, devoir parler de soi, etc. Et dans ce cas-là, le dispositif psychologue de rue, c'est vraiment l'idée de rencontrer de manière gratuite un psychologue dans des espaces qui peuvent être sécurisants. Donc ça peut se faire dehors, dans un café, à domicile. Et voilà, l'idée, c'est d'amener progressivement le jeune à faire l'expérience de qu'est-ce que ça fait de rencontrer un thérapeute, et un thérapeute qui a plus de flexibilité.
Ok, merci. Est-ce qu'on a des choses à rajouter ?
Oui, je ne connaissais pas, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi ce que moi, parfois, j'essaie de faire en cabinet, même si c'est dans l'enceinte de cet espace, mais parfois, la position face à face, elle donne pas suffisamment de sécurité à la personne pour pouvoir travailler. Et donc, c'est aussi de pouvoir remettre ça en cause et de proposer... est-ce qu'on s'installe autrement, de venir tester aussi, de ressentir dans le corps, est-ce que là, si je m'éloigne, c'est mieux ? Est-ce que si je me mets à côté, est-ce que c'est mieux ou moins bien ? Est-ce que si le regard, parfois aussi, peut être une forme de pression, ou qu'il y a des personnes avec beaucoup de honte, le regard de l'autre, c'est compliqué ? Enfin, de venir, en fait, chercher d'être inventif, c'est ça aussi, c'est ce que j'aime, c'est cette créativité qu'on peut mettre en place pour se dire, bon, là, il y a une forme d'insécurité. De venir aussi, de pouvoir la définir. Je demande souvent de 0 à 10, vous vous sentez comment en termes de sécurité relationnelle avec moi ? Et après, on cherche à comment gagner des petits points. Et ça peut être notamment la question de pouvoir... J'ai jamais pensé à aller au café avec un patient, mais en fait, ou d'aller marcher même. Ça peut être des super solutions, quoi.
Yann, est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faudrait qu'on revienne ?
Alors... Moi, donc je sais par exemple que j'ai un travail à faire sur moi-même, donc je me dis, je regarde un petit peu, je vois qu'il y a plus de 400 pratiques, donc je suis un peu perdu, mais comme j'écoute Thérapie Vision de Psy, je comprends que le plus important, ça va être le lien avec le thérapeute. Donc, et on me conseille un super thérapeute qui semble correspondre à ce dont j'ai besoin, donc super. Par contre, j'ai des semaines bien remplies et j'ai un dernier frein, qui est, j'ai une semaine très chargée, j'ai un peu peur d'ouvrir une boîte de Pandore et de démarrer un travail sur 3 ans. Je ne veux pas forcément le faire maintenant, voire ça me fait peur de le faire dans mon quotidien. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour peut-être faire sauter ? J'ai peut-être un peu peur même d'aller fouiller quelque chose. Je suis capable de vivre avec mon trauma, ça va à peu près. Du coup, j'ai peut-être un peu peur d'amplifier ce problème, d'aller fouiller et de trouver. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour justement casser ce dernier frein et aller vous voir ?
Je ne suis pas persuadée, dans un premier temps, j'ai envie de dire, je ne suis pas persuadée qu'il faut casser ce frein. En fait, la question de la temporalité de quand on va voir un psychologue ou un psychopraticien, un thérapeute, quel qu'il soit, quand est-ce qu'on y va, c'est très personnel et il y a des fois, ce n'est pas le moment, en fait. Justement, on parlait de quand est-ce que la relation, on ne la sent pas trop ou ça ne s'installe pas bien. Parfois, c'est aussi qu'en fait, ce n'est pas le moment pour nous et puis on pourrait essayer plus tard. Je crois qu'il ne faut pas non plus se dire que... tout le monde fait ce travail thérapeutique sur lui. Peut-être, moi, il faut que j'y aille aussi. Non, en fait, c'est quand on le sent pour soi. Parfois, on y est acculé un peu parce que le quotidien devient trop envahi, devient trop difficile. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'essayer de faire autrement maintenant. Après, quand c'est un travail plus de compréhension, où on a envie, mais pour l'instant, oh là là, de toute façon, j'ai tellement de choses à faire. En fait, s'il y a plein d'autres choses à faire, c'est plutôt une peut-être bonne nouvelle, c'est que c'est pas le bon moment. Ou voilà, en fait, je sais pas s'il faut forcément casser ce frein, ce serait mon avis.
Et moi, j'aurais envie de dire, si par exemple, tu es assez au clair sur ce que tu veux travailler, en fait, tu peux arriver avec une demande assez claire et dire, je viens pour ça, mais je ne souhaite pas aller là-dessus. Et c'est d'être en capacité de dire à son psy ou à son thérapeute, en fait, non, ça, je sens que c'est pas le bon moment. Et là, je crois que la question du consentement, elle est essentielle. Et si on parlait tout à l'heure de la question de la sécurité, si le thérapeute continue à aller dans cet endroit-là alors que tu as dit que tu ne voulais pas y aller, ça peut être dit, en fait, vous me demandez à chaque fois de revenir là-dessus, mais je vous ai dit que c'était pas le bon moment pour moi. Donc c'est aussi de se dire, quand on va voir un thérapeute, de pas s'oublier dans la relation, mais justement de travailler avec qu'est-ce qui est bon pour soi et de rester à l'écoute de son corps. Normalement, le thérapeute, il va toujours avoir une attention, de voir comment le corps réagit. Est-ce que c'est OK quand je vous pose cette question? Est-ce que c'est OK qu'on aille... Normalement, c'est checker. On va toujours aller vérifier. Mais si c'est pas le cas, si c'est un thérapeute qui a une autre pratique et qui ne vérifie pas, du coup, effectivement, là, ce serait d'être très au clair avec ça.
Et après, je voudrais ajouter que si tu sens qu'il y a une part de toi qui a très envie d'y aller et qu'il y a cette autre part qui dit c'est-à-dire qu'il y a aussi un espèce de conflit à l'intérieur de toi avec ces deux parts et que ça peut être intéressant aussi de venir s'occuper de cette part-là qui est dans une forme de résistance pour vraiment voir est-ce que c'est une question de timing et c'est pas le moment ou est-ce qu'en fait peut-être il y a des peurs là derrière ou des croyances, c'est-à-dire l'idée qu'on va commencer à travailler un truc et que là on va se faire engouffrer dans quelque chose ou que ça va, on va s'effondrer ou que, et en fait de venir voir vraiment cette résistance, il faut vraiment la respecter, mais la respecter aussi en la en s'intéressant à elle et en voyant ce qu'elle raconte et où effectivement ça rejoint à nouveau la sécurité et le lien, c'est que de toute façon je pense que nos systèmes en fait sont des systèmes de on a des mécanismes de défense et que tant que le système global ne sent pas qu'il est possible en fait d'ouvrir les portes, ça ne s'ouvre pas et c'est pas le meilleur des thérapeutes en face ne fera rien à ça. Donc c'est vrai, moi là il y a une idée de collaboration et de tenir compte de tous les différents espaces en toi, ceux qui sont OK pour y aller et ceux qui sont pas OK, de aussi comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire avec eux quoi.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses à toutes nos questions. On va devoir s'arrêter là. Sur la page de l'émission, on mettra un maximum d'informations sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui, sur des points de référence, sur les lieux, sur les numéros de téléphone qu'on peut contacter. Je remercie donc Léa Buisson, Sophie Ndiaye et Hélène Malgouillard qui étaient avec nous pour nous répondre, et aussi à Yann qui a posé les questions clés.
Merci.
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 I knew you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for some.